Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Mouvement contre la loi travail, le loin et la Seine montent au front. Emplis ton lit de l'eau qui sort des sources. Excite tous les torrents, dresse d'énormes vagues, soulève un grand fracas de bois et de pierre, pour que nous fassions cesser le sauvage qui est maintenant le maître, et montre une fureur égale à celle des dieux. Homère.
Alors que les journées d'action contre la loi travail se multiplient et s'intensifient partout en France, un nouveau protagoniste s'est invité dans l'arène, et il joue maintenant sa propre partition en matière de blocage de l'économie.
En effet, force est de constater que les intempéries et les inondations qui frappent le pays depuis plusieurs jours viennent renforcer de manière inattendue les efforts des manifestants et des grévistes pour paralyser l'économie, l'Hexagone et, à l'approche de l'Euro 2016, faire pression sur le gouvernement.
Comme semble le déplorer un journaliste du Monde, à la grève qui affecte déjà une partie du trafic, s'ajoutent maintenant les intempéries.
Quand Manuel Valls voudrait se donner les airs d'un dieu à la volonté inflexible, repoussant les opposants à la loi travail d'une main de fer, ce déferlement des puissances diluviennes nous rappelle qu'il n'est qu'un homme, et que la nécessité économique qu'il voudrait nous imposer tient difficilement devant les assauts des puissances élémentaires.
Car celles-ci ne se mettent jamais en colère à moitié, et malheureusement, elles emportent aussi parfois des innocents dans leur tourmente.
Qu'on en juge, sous-préfecture inondée, cours suspendus, concerts annulés, lieux touristiques et autoroutes fermées, coupures d'électricité massives, perturbations dans les transports ferroviaires, et ce n'est peut-être que le début.
Le Monde toujours. Après une journée d'accalmie relative mercredi, de nouvelles pluies, jeudi 2 juin, font craindre une aggravation des crues déjà exceptionnelles dans le pays.
À ce titre, que les déluges s'abattent principalement sur l'Île-de-France nous invite à penser que le ciel a peut-être aussi son mot à dire à propos de la politique économique du gouvernement. Emmanuel Valls courrait-il ainsi d'une commune à l'autre, multipliant les hommages et les hécatombes aux dieux de la pluie, s'il ne se sentait pas personnellement visé par ce déluge ?
Tous les spécialistes s'accordent en tout cas pour dire que ces précipitations sont inédites par leur ampleur en cette saison.
En moyenne, des intempéries si intenses se produisent une fois par siècle, souligne François Jobard, prévisionniste à Météo France dans les pages de Ouest France du 2 juin.
Il faut dire qu'en 3 jours, il est tombé dans le bassin parisien et le nord de la région centre autant de pluie qu'en 2 mois.
Tant et si bien que cette conjonction inédite entre les efforts des grévistes d'un côté et l'inexorable montée du loin et de la Seine de l'autre, qui deviennent des combattants à part entière sur le théâtre de la lutte en cours, comme autrefois ce fleuve au tourbillon profond que les dieux nommaient le Xanthe et les hommes le Scamandre, dessine peut-être les contours d'une alliance politique d'un genre nouveau entre certaines pratiques humaines et certains phénomènes cataclysmiques, dans la continuité de leurs effets.
Car plus personne ne doute aujourd'hui du fait qu'il y a une parfaite coïncidence entre les conditions contemporaines du travail, qui asservissent toujours plus les hommes à la logique du capital, et les effets dévastateurs d'un système de production, aveugle à tout ce qui n'est pas lui, sur les éléments et le monde.
Dans ces conditions, le mouvement contre la loi El Khomri pourrait peut-être encore gagner en puissance si nous parvenions, nous autres grévistes et opposants au gouvernement, à composer avec ces conditions catastrophiques, voire... Mais nous avons bien conscience de notre folie, quand nous disons cela, à nous coordonner avec elle.
Autrement dit, il n'a peut-être jamais été aussi nécessaire de réapprendre à danser la danse de la pluie et à tisser des liens politiques avec ses camarades non humains dont nous gouvernants ont déchaîné les puissances.
Tous ensemble, ouvrons les vannes.
Le zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'à la cheville, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules. Les beaux quartiers n'ont jamais vu cela. Et pire qu'une tornade, pire qu'une guerre, le métro de M. Lépine est menacé. que va devenir la tour Eiffel? Au loin, le génie de la Bastille voit pour la première fois les bateaux passer à ses pieds. On rame dans la cour de la gare Saint-Lazare. Le flot s'engouffre dans le bouillon du Val. Mais déjà, dit Jules Renard, le côté Venise de l'inondation commence à lasser tout le monde. À Boulogne, à Suresnes, les petits rentiers de banlieue s'impatientent, les voilà coupés de Paris. Mais par bonheur, les eaux baissent enfin.
Voici un récit d'anticipation. Paris subissant, dans quelques années, une inondation plus importante que celle de 1910. Une hypothèse devenue une quasi-certitude pour les experts. À écouter pour se préparer. Samedi 4 juin, le niveau de la Seine à Paris a atteint 6,10 m, selon le ministère de l'Environnement. En 1910, il avait atteint 8,62 m. Et une grande partie de la capitale avait été inondée. Dans un rapport réalisé par l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques en 2014 sur les conséquences du changement climatique sur la politique de défense, les auteurs ont imaginé des scénarios concrets de ce qui pourrait arriver. parmi ces scénarios, Paris subissant une crue plus forte que celle de 1910. Comment notre société technologique réagira-t-elle? Découvrez-le.
Dans la salle de gestion de crise, située au quatrième étage de la préfecture de police, Mohamed Mbala et Stéphane de Guyancourt regardent d'un air concentré la représentation holographique du débit de la Seine qui flotte au centre de la pièce, au-dessus de la grande table. À côté du préfet d'Île-de-France et du secrétaire de la zone de défense de Paris, une quinzaine d'experts, d'ingénieurs et de responsables. Tous ont les traits tirés par trop d'heures de veille. Il n'y a plus de doute. En ce mardi 15 février 2028, alors que les pluies n'ont pas cessé depuis 20 jours, après une année 2027 exceptionnellement arrosée, la crue, que tous suivent depuis 5 jours, va dépasser le seuil fatidique. « Le niveau R devrait être dépassé dans 3 heures, à l'aube », annonce l'ingénieur-chef Kevin Garcia, regardant un des écrans qui parsème la salle. Le niveau R, c'est la référence de 1910. Au rythme de la montée des eaux, qui ne se ralentit pas, poursuit-il, on pourrait atteindre R 1,3, voire 1,4 d'ici 2 jours. R 1,3 correspond à 30% de plus que le niveau de 1910, soit la catastrophe que tous ici ont modélisée et étudiée, mais qu'aucun ne pensait voir de son vivant. Les coupures d'électricité ont déjà commencé au centre de la capitale et dans sa proche banlieue. De nombreux postes de transformateurs privés ont arrêté de fonctionner, soit que les opérateurs n'aient pas pris les dispositions nécessaires, malgré les consignes 10 fois répétées, soit qu'ils aient volontairement interrompu le fonctionnement pour sauver les pièces coûteuses, qui seraient détruites en cas de recouvrement par l'eau. Le plan Poséidon, dont le dispositif central est la mobilisation de 15 000 hommes de l'armée de terre, déjà positionnés depuis 4 jours à Paris même ou dans ses environs immédiats, est déclenché. 2 milliers de soldats se déploient près des sites les plus sensibles de la capitale. D'autres se rangent près des ponts du périphérique pour tenter de réguler la circulation qui se complique de minute en minute. On garde en réserve le plus grand nombre pour une éventuelle évacuation des populations civiles et d'autres tâches. Les compagnies républicaines de sécurité ont pour l'essentiel été déployées aux abords des quartiers dits sensibles des banlieues. Au cours de la matinée, les mauvaises nouvelles se succèdent. La cote de 1910 est dépassée et l'on enregistre déjà 9,01 mètres. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est envahi par les eaux. Plus grand hôpital du pays, il cesse de fonctionner. Les opérations urgentes doivent être annulées. Les premiers décès de patients en état critique sont annoncés. La plaine de Gennevilliers se recouvre des flots de la Seine. Le port s'arrête, des usines cessent de fonctionner. Le préfet décide de couper un à un les ponts sur le fleuve. La circulation devient chaotique alors qu'à midi, seuls les ponts enjambant le périphérique sont désormais ouverts. Dans tous les commissariats, les appels affolés des habitants se multiplient. Nombreux sont les sous-sols d'immeubles inondés. Plusieurs lignes de métro s'arrêtent ainsi que le RER. La station Châtelet baigne à son tour dans les eaux et il faut évacuer des centaines de voyageurs. Le ministre de l'Intérieur, après concertation avec le président de la République, décrète à midi l'état d'urgence. Toutes les sirènes de Paris sont mises en action et le préfet Mbala lance l'évacuation des quartiers centraux. Plus de 200 000 personnes, selon les plans préétablis, que les militaires, munis de canaux rapidement gonflables, commencent à embarquer vers des écoles et gymnases réquisitionnés dans des arrondissements périphériques. Un nouveau problème apparaît plus tôt que prévu. La majorité des agents des services municipaux habitent en banlieue et ne peuvent plus regagner leur poste. Certains, d'ailleurs, n'ont même pas cherché à le faire le matin, en entendant les dernières nouvelles. Plusieurs fonctions ne sont déjà plus assurées, et notamment l'évacuation des ordures ménagères. Le plan propre est mis en œuvre, 2000 soldats étant chargés d'enlever le plus gros des ordures. Les coupures d'électricité se multiplient, notamment dans les tours du front de Seine. La prestigieuse Allure 3000, édifiée en 2026 à 350 mètres de haut, comme pour défier la tour Eiffel, sa construction avait fait l'objet d'un vif débat, est paralysée. Construite trop rapidement, tout n'a-t-il pas été fait dans les règles? Pour Stéphane de Guyancourt, le moment n'est pas venu de cette discussion. L'urgence est d'évacuer les 1000 employés qui s'y trouvaient encore. Heureusement, tous ne sont pas venus ce matin, loin de là. Un problème inattendu apparaît. Le géant des télécoms, Wifinet, y avait logé son centre de gestion présenté comme le plus performant d'Europe. Sauf qu'il tombe en panne. Le trafic Internet de tout le pays en est perturbé. Dans les banlieues, on signale des échauffourées, maîtrisées par les CRS. Mais à 15h15, dans Paris affolé, deux événements simultanés font encore monter la pression, s'il en était besoin. Avenue Montaigne, des bandes de centaines d'individus pillent systématiquement tous les magasins. Positionnée place de l'Alma, avec 200 hommes, le colonel Baguin demande s'il doit laisser faire ou effectuer des tirs de sommation. La même scène se déroule au méga-centre commercial de Charenton, sauf qu'il n'y a là personne pour faire face aux pillards, sinon 20 policiers qui ont été débordés. Deux ont été blessés au couteau. Au même moment, des automobilistes exaspérés sur le pont du périphérique agressent les militaires. Un soldat a été écrasé par une voiture qui l'a coincé comme contre un parapet. Il est 17h, la côte atteint 9,50 mètres et ne montre pas de signe de ralentissement. Dans 9 arrondissements, l'eau n'est plus distribuée. Monsieur Mbala ordonne l'évacuation de quartiers représentant environ 300 000 habitants supplémentaires. Il faut aussi lancer l'approvisionnement alimentaire et en eau de la population. Avenue Montaigne, l'ordre de tir a été donné contre les pillards qui, comme fous, agressaient la première ligne des militaires. 3 morts. Mais d'autres bandes dévastent les Champs-Élysées. Une compagnie se positionne place Franklin Roosevelt. La nuit est tombée. Dans Paris, ville obscure, ville affamée, ville paniquée, les autorités tentent de faire face. Mais la cote atteint 10,02 à minuit.
Nimbus, de la famille des cumulus, est le nuage qui présente la plus grande extension verticale. Il peut culminer à des altitudes allant de 8000 à 18000 mètres. En fin d'évolution, sa partie supérieure ressemble à une enclume. Le cumulonimbus est souvent associé à des phénomènes violents, comme les fortes averses, la foudre, les tornades, les rafales descendantes et la grêle. Il
est généralement admis que les aéronefs devraient éviter de voler à proximité des cumulonimbus, qui développent une énergie considérable. Le principal danger lié aux cumulonimbus est la présence de rafales descendantes et d'une très forte turbulence dans les hautes couches du nuage due à un effet de cisaillement entre les courants ascendants et descendants. Il existe d'autres dangers, plus sournois, comme la perte de repères visuels lorsqu'un aéronef est aspiré dans le nuage. Le foudroiement, le givrage dû à la présence d'eau surfondue en grande quantité et les hydrométéores comme la grêle. Lorsque le nuage atteint sa plus grande extension verticale, des parcelles d'air humide montent grâce à l'instabilité de l'air. Il dépasse le niveau d'équilibre et ralentit son ascension grâce à l'inversion de température de la tropopause. Les gouttelettes se transforment en cristaux de glace selon la disponibilité des noyaux de congélation. Et les vents de très haute altitude peuvent les entraîner loin du courant ascendant pour former un nuage de cirrus au sommet, lui donnant un aspect chevelu. Lorsque ce cirrus forme un nuage plat semblable à une enclume, on parle de cumulonimbus capillatus incus. Sa base, très sombre, s'accompagne fréquemment de nuages bas déchiquetés, soudés ou non avec elle, que l'on nomme panus. Les cumulonimbus capillatus et incus peuvent donner toute la panoplie de phénomènes violents comme les pluies torrentielles, la grêle, les rafales descendantes et même les tornades, surtout s'ils deviennent supercellulaires. C'était Riders on the Storm des Doors, comme vous l'avez reconnu. Et le récit d'anticipation dont vous avez eu la lecture était issu d'un rapport de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On peut donc dire que, en quelque sorte, c'est la voix du pouvoir et qu'il représente une version du cauchemar gouvernemental dans un cas de catastrophe climatique forte. Et ce qui est frappant dans ce récit, c'est la proximité de l'imaginaire qui est déployé dans le cas d'une catastrophe avec celui qui pourrait être déployé dans le cas d'une insurrection, avec ces bandes de pillards qui s'en prennent aux militaires, qui s'approprient autant qu'ils peuvent toutes les denrées qui restent en ville. Et on voulait vous proposer une lecture qui contrebalance un peu avec cette vision terrorisante des choses, et qui montre en quoi ces moments de suspension de l'ordre normal des choses peuvent produire de toute autre tendance que celle du chaos craint par le gouvernement. On vous allez donc entendre une lecture d'un extrait de « À nos amis » du Comité Invisible.
On ne peut sous-estimer la frénésie d'Apocalypse, la soif d'Armageddon dont l'époque est traversée. Sa pornographie existentielle à elle, c'est de mater des documentaires d'anticipation montrant en images de synthèse les nuages de criquets qui viendront s'abattre en 2075 sur les vignobles de Bordeaux et les hordes de migrants climatiques qui prendront d'assaut les rives sud de l'Europe, ceux que Frontex se fait d'ores et déjà un devoir de décimer. Rien n'est plus vieux que la fin du monde. La passion apocalyptique a depuis la plus haute antiquité toujours eu la faveur des impuissants. La nouveauté, c'est que nous vivons une époque où l'apocalyptique a été intégralement absorbée par le capital et mise à son service. L'horizon de la catastrophe est ce à partir de quoi nous sommes présentement gouvernés. Or, s'il y a bien une chose vouée à rester inaccomplie, c'est la prophétie apocalyptique. qu'elle soit économique, climatique, terroriste ou nucléaire. Elle n'est annoncée que pour appeler les moyens de la conjurer, c'est-à-dire le plus souvent la nécessité du gouvernement. Aucune organisation, ni politique ni religieuse, ne s'est jamais avouée vaincue parce que les faits démentaient ses prophéties. Car le but de la prophétie n'est jamais d'avoir raison sur le futur, mais d'opérer sur le présent, imposer ici et maintenant l'attente, la passivité, la soumission. Non seulement il n'y a pas d'autre catastrophe à venir que celle qui est déjà là, mais il est patent que la plupart des désastres effectifs offrent une issue à notre désastre quotidien. Nombre d'exemples attestent du soulagement de l'apocalypse existentielle par la catastrophe réelle, du séisme qui frappa San Francisco en 1906, à l'ouragan Sandy qui dévasta une partie de New York en 2012. On présume d'ordinaire que les rapports entre les gens en situation d'urgence révèlent leur profonde et éternelle bestialité. On désire, avec tout séisme ravageur, tout krach économique ou toute attaque terroriste, voir confirmer la vieille chimère de l'état de nature et son cortège d'exactions incontrôlables. On voudrait qu'affleure, lorsque viennent à céder les minces digues de la civilisation, le vilain fond de l'homme qui obsédait Pascal, les passions mauvaises, la nature humaine envieuse, brutale, aveugle et haïssable, qui depuis Thucydide, au moins, sert d'argument aux tenants du pouvoir. Fantasme malheureusement infirmé par la plupart des désastres et historiquement connus. L'effacement de la civilisation ne prend généralement pas la forme d'une guerre chaotique de tous contre tous. Ce discours hostile ne sert, en situation de catastrophe sévère, qu'à justifier la priorité accordée à la défense de la propriété contre le pillage, par la police, l'armée, ou, faute de mieux, par des milices de vigilantes formées pour l'occasion. Il peut aussi servir à couvrir les malversations des autorités elles-mêmes, comme celle de la protection civile italienne après le tremblement de terre de l'Aquila. La décomposition de ce monde, assumée comme telle, ouvre au contraire la voie à d'autres manières de vivre, y compris en pleine situation d'urgence. Ainsi, les habitants de Mexico, en 1985, qui, au milieu des décombres de leur ville frappée par un séisme meurtrier, réinventent d'un même geste le carnaval révolutionnaire et la figure du super-héros au service du peuple, sous la forme d'un catcheur de légende, Super Barrio. Dans la foulée d'une reprise en main euphorique de leur existence urbaine, dans ce qu'elle a de plus quotidien, ils assimilent l'effondrement des immeubles à l'effondrement du système politique, libèrent autant que possible la vie de la ville de l'emprise du gouvernement, reconstruisent leur habitation détruite. Un enthousiaste d'Halifax ne disait pas autre chose lorsqu'il déclarait après l'ouragan de 2003. Tout le monde s'est réveillé un matin et tout était différent. Il n'y avait plus d'électricité et tous les magasins étaient fermés. Personne n'avait accès aux médias. Du coup, tout le monde s'est retrouvé dans la rue pour parler et témoigner. Pas vraiment une fête de rue, mais tout le monde dehors en même temps. Un bonheur en un sens, de voir tous ces gens alors que nous ne nous connaissions même pas. Ainsi, ces communautés miniatures, formées spontanément à la Nouvelle-Orléans dans les jours suivant Katrina, face au mépris des pouvoirs publics et à la paranoïa des agences de sécurité, et qui s'organisèrent quotidiennement pour se nourrir, se soigner, se vêtir, quitte à piller quelques magasins.
Thank you.
sur cette gymnopédie numéro 1 de Eric Satie, qui s'enchaînait magnifiquement avec la description insurrectionnelle du comité invisible. On voulait revenir un peu à une forme de discussion improvisée à propos de tout ce qu'on a entendu. Et comme je le disais avant la lecture, ce qui est frappant, c'est voilà, cette proclamation de l'état d'urgence, toute cette description apocalyptique de la ville en proie avec le chaos d'une population qui est à bout, et la description d'un gouvernement qui tente tant bien que mal de gérer une situation qui ressemble étonnamment à une situation insurrectionnelle. Tout ça repris dans le texte du comité invisible qui nous explique, qui tente d'apporter un peu débit pour montrer comment on est déjà gouverné par l'horizon de la catastrophe et comment la catastrophe, elle vient réaffirmer, elle sert surtout sa fonction. Une de ses fonctions principales, c'est d'affirmer la nécessité du gouvernement. Et voilà, donc c'est pas à prendre comme une apologie de différentes formes de catastrophes, comme si celle-ci venait ouvrir une brèche salutaire, mais plutôt comme une forme d'enseignement sur la manière dont le gouvernement fonctionne et s'applique à la population. Et on pourrait dire qu'en fait, les catastrophes, comme les ouragans et autres, sont presque des laboratoires pour le gouvernement, laboratoires de gestion de population qui peuvent s'appliquer indifféremment à ces situations-là ou à des situations d'insurrection et même de mouvement social. Pour lancer un peu la discussion, je voulais revenir sur un concept qui n'est pas cité dans le paragraphe qui a été lu, qui est celui de résilience. Et en fait, des camarades new-yorkais nous expliquaient qu'à la suite de l'ouragan Sandy, qui a plongé New York, des quartiers entiers de New York, du centre-ville de New York, dans le blackout en 2012, c'est un concept qui s'est imposé comme étant le nouveau cœur, en fait, de la gestion urbaine. La résilience, en fait, ça veut dire la capacité d'un système à faire face le plus rapidement possible à une rupture dans son fonctionnement normal, à un dysfonctionnement. Et en fait, pendant l'ouragan, ils se sont rendus compte que grâce à toutes les informations qu'ils pouvaient collecter de ce qui remontait de la population par les outils comme Internet et autres, ils arrivaient à gérer d'autant mieux et à intervenir d'autant plus rapidement puisque tous les problèmes qui dans chaque quartier leur étaient signalés extrêmement rapidement. Voilà, ça c'est un des aspects, l'aspect un peu cybernétique, on va dire, pour faire rapide. Et le deuxième aspect, c'était une tentative à partir de ce moment-là de repenser notamment les flux électriques pour qu'il n'y ait pas une possibilité que le système étant coupé en un point, ça soit l'entièreté du système qui en pâtisse, mais au contraire, penser des espèces de boucles qui feraient que tous les secteurs seraient plus ou moins autonomes tout en étant connectés. Voilà, ça donne un peu, ça trace un peu comme ça le profil, l'imaginaire de ce que ce serait la gouvernementalité idéale pour le pouvoir. Donc ça, c'est un des aspects de la résilience. Et ce qui fait face à ça et l'imaginaire qui fait face à celui du chaos cauchemardesque gouvernemental, c'est au contraire le fait que pendant ces blackouts, les peu de gens qui étaient restés dans le centre-ville de New York, en fait, se retrouvaient au bas des immeubles, dans la rue, et pour une fois, manger ensemble, essayer de se débrouiller avec les ressources qui étaient à leur disposition. Et il y a tout un tas de mécanismes d'entraide et de mise en commun qui se déclenchent dans ces situations-là. Et en fait, au pillage de la population s'articulent en fait des formes de mise en commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à opposer l'un et l'autre, mais sûrement que ce soit dans les catastrophes ou dans les insurrections, que ça fonctionne ensemble et que c'est perçu de manière cauchemardesque par le gouvernement, justement, parce que c'est un affront à la fois dans la violence, mais aussi dans la mise en commun et dans la nouvelle forme de vie qui s'instaure à ce moment-là. Et donc ça, c'est un peu pour l'aspect directement vécu dans la situation. Et pour l'aspect plus politique, on pourrait dire, on se disait qu'il fallait revenir aussi sur la notion de catastrophe, à savoir qu'il ne s'agit jamais de catastrophe pleinement naturelle. C'est-à-dire que derrière tous les dysfonctionnements, il y a aussi une manière dont l'espace est agencé. Par exemple, pendant l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, c'était évidemment les quartiers les plus pauvres qui étaient directement touchés. C'était pas par hasard s'ils avaient été construits dans certains endroits, etc. Ce qui se passe dans ces moments de catastrophe, c'est que viennent ressurgir toutes les problématiques sociales qui tentent d'être enfouies et d'être conjurées en permanence par le gouvernement, et ressurgissent tout un tas de disparités sociales qui sont elles pleinement politiques. Et donc c'est aussi dans ce sens-là qu'une catastrophe a toujours un sens pleinement politique, parce qu'elle vient faire ressurgir toutes ces questions-là.
Et donc en effet, plus que comme moment d'interruption, comme moment à part, la catastrophe dite naturelle, dans ses conséquences, fait ressortir les conséquences donc d'un certain nombre de choix politiques, les conséquences de la structure sociale et spatiale d'une société. Par exemple, si pour illustrer cela de manière très très immédiate, en lien avec l'actualité très très récente. Les pluies et les inondations des derniers jours. Un hydrologue nous dit que certes c'est les pluies qui tombent ces derniers temps sont exceptionnelles, mais que la bétonisation, l'artificialisation des zones humides, la disparition des haies aggravent la situation en diminuant la capacité d'absorption des sols, etc. Les clivages sociaux ressortent également dans les conséquences de ces catastrophes. Ainsi, l'ouragan Katrina, comme tu l'as dit, a touché d'abord et avant tout les populations pauvres et noires de la Nouvelle-Orléans, d'où le peu d'intérêt politique de la part du gouvernement américain pour les victimes de cet ouragan, et également la militarisation extrêmement élevée des zones affectées par la catastrophe, afin d'y rétablir l'ordre. Donc en effet, les populations les plus pauvres sont les plus touchées par les catastrophes, puisqu'elles résident dans les endroits les plus risqués, que ce soit des endroits sujets à des catastrophes naturelles, ou des endroits à proximité de sites industriels, qui, s'ils sont affectés par une catastrophe, toucheront de manière très importante les populations alentour. Et voilà, les individus les mieux dotés scolairement, culturellement, etc., ont les moyens politiques de s'organiser et de faire pression sur les élus, etc., pour qu'il n'y ait pas d'usines, de centres de stockage de déchets, etc., qui s'installent à proximité de chez eux. Donc le troisième point qui nous permet de faire ressortir l'ancrage social des catastrophes naturelles et leur côté politique, c'est un phénomène financier assez récent, mis en avant par un sociologue qui s'appelle Ramzi Kocheyan dans un bouquin qui s'appelle « La nature est un champ de bataille », qui est la financiarisation des catastrophes naturelles. À savoir que les gouvernements des pays, qui sont d'ailleurs les pays du tiers-monde, les pays les plus pauvres, donc des pays les plus sujets à être victimes de catastrophes naturelles, vont souscrire auprès de compagnies d'assurance privée des titres. Tous les ans, ils vont payer un certain montant à cette compagnie d'assurance. Et si un jour une catastrophe naturelle affecte le pays, la compagnie d'assurance est forcée de verser une certaine somme définie à l'avance à ce pays. Et ces titres financiers sont donc joués en bourse et soumis à une spéculation extrêmement élevée. Et donc, ce qui accroît encore la pression, la pression sur ces pays-là, une double pression, donc à la fois financière, qui s'ajoute à la pression des phénomènes naturels.
Salut. Du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais. Moi, ça me fait penser. On en parlait juste avant sur l'événement à Mexico en 85. Il y a eu un tremblement de terre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et c'est une illustration parfaite de ce clivage social qu'il existait entre, particulièrement à Mexico à cette époque, entre des populations aisées et des populations pauvres, c'est-à-dire l'immense majorité de la population de la ville de Mexico à ce moment-là. Ce qu'on a découvert après le tremblement de terre, donc il y avait les justifications du gouvernement, c'est vraiment pas de chance, c'est une catastrophe naturelle, on ne pouvait rien y faire. Et puis après, il y a eu l'Église qui est passée derrière, qui a expliqué que miséricordia, c'est Dieu, c'est la volonté d'un être qui nous a atteint, on ne peut rien y faire. Les études qui ont été menées après ce tremblement de terre ont pu démontrer que, en fait, dû à la corruption et dû au fait que à l'agrandissement de la population de Mexico ces dernières années, les autorités ont en fait installé des populations, les populations les plus miséreuses, sur des zones instables, dans des habitations insalubres, des habitations dangereuses, qui ne permettaient pas de faire face à un tremblement de terre de cette envergure. Et ce tremblement de terre, il a évidemment pas touché les quartiers les plus riches, les quartiers les plus aisés. Il a fait des dizaines de milliers de morts au sein des personnes. Des personnes pauvres et des quartiers périphériques.
Et moi, je voulais juste pour poursuivre la discussion donner 2-3 éléments un peu concrets. C'est-à-dire qu'on avait entendu dans un reportage qui passait sur une radio un peu une grande radio quoi nationale, quelqu'un, une auditrice qui appelait pour dire là une habitante de l'Essonne qui appelait pour dire que elle était scandalisée par la gestion actuelle de la crue qui privilégiait Paris sur par exemple les départements limitrophes. Du coup, elle habitait dans l'Essonne et elle disait voilà, ils ont fait le choix d'inonder l'Essonne pour limiter les dégâts à Paris. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure voilà, ce choix-là, par exemple, reflète les disparités sociales, etc. Il faudrait se pencher plus précisément sur la question. Mais en tout cas, c'est juste pour appuyer concrètement dans le sens du... Voilà, c'est pas quelque chose que le gouvernement subit complètement et que nous tous on subit complètement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière d'intervenir sur la situation qui a un sens, etc. Sinon, moi, je voulais faire le rapprochement, du coup, comme on l'a déjà fait, mais continuer le rapprochement entre du coup la crue et le blocage, enfin les catastrophes et le blocage par exemple de l'économie et plus loin l'insurrection, mais sur la question de la pénurie quoi. C'est-à-dire que la pénurie c'est un peu l'épouvantail agité par le gouvernement qui dit voilà les syndicalistes prennent la France en otage etc. Et plus loin si ça continuait qu'est-ce qui se passerait quoi on sent la facilité avec laquelle ils pourraient mobiliser une espèce de terreur du genre on va tous crever parce que il y a plus de pétrole et qu'il y aura plus rien pour et du coup voilà c'est la question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce qui advient réellement dans ce genre de situation. Je pense que faudrait avoir en tête ce qui s'est passé pendant mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand il y avait tous ces blocages en 68. Comment les gens se sont organisés. On sait par exemple que dans certaines villes comme Nantes, voilà, c'était les syndicalistes qui géraient les bons d'essence, c'était les paysans qui ravitaillaient les grèves, etc. Et du coup, voilà, la question de la pénurie, en fait, assez vite, on se rend compte qu'elle se diffracte et que ça devient une question éminemment politique et elle fait partie du rapport de force, c'est-à-dire c'est la pénurie pour qui et qui c'est qui organise la pénurie ou plutôt qui c'est qui organise le ravitaillement, quoi. Et la pénurie, dans ce cas-là, elle est surtout pour le gouvernement. Voilà, du coup, il y a tout un imaginaire à travailler et à développer autour de ces questions-là pour avoir confiance dans ces moments un peu de suspension de l'ordre normal des choses et pas être attrapé immédiatement et écrasé par la terreur de l'état d'urgence qui s'applique aussi bien au terrorisme qu'aux catastrophes naturelles et que à l'insurrection quand elle viendra. On va donc lancer une nouvelle musique, c'est La cathédrale engloutie de Claude Debussy. On se retrouve dans quelques minutes. Mais comment ? Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades ?
Les sons que rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemblent aux murmures que les vents et les eaux font entendre dans les silences d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre.
L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes. J'entrais avec ravissement dans les mois des tempêtes.
Tantôt, j'aurais voulu être un de ces guerriers, errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes. Tantôt, j'enviais jusqu'au sort du pâtre, que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois.
J'écoutais ces chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur.
Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré au soupir.
Le jour, je m'égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts.
Qu'il fallait peu de choses à ma rêverie ?
Une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s'élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du nord sur le tronc d'un chêne, une roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait.
Le clocher solitaire, s'élevant au loin dans la vallée, a souvent attiré mes regards. Souvent, j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête.
Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent. J'aurais voulu être sur leurs ailes.
Un secret instinct me tourmentait. Je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur, mais une voix du ciel semblait me dire
« Homme, la saison de ta migration n'est pas encore venue. Attends que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande. »
Levez-vous vite, orage désiré, qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie.
Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur.
La nuit, lorsque l'aquilon ébranlait ma chaumière, que les pluies tombaient en torrents sur mon toit, qu'à travers ma fenêtre, je voyais la lune sillonner les nuages amoncelés, comme un pâle vaisseau qui laboure les vagues, il me semblait que la vie redoublait au fond de mon cœur, que j'aurais la puissance de créer des mondes.
Ouais, après ce magnifique texte de Chateaubriand, merci les gars. Voilà, je voulais revenir un peu sur ce qui était dit avant, ça me faisait penser un peu, il y a aussi une imaginaire de la catastrophe qui est hyper conservatrice. Elle nous vient surtout des États-Unis, et on a vu une résurgence ces 10 dernières années avec un tas de films en mode catastrophe naturelle ou alors catastrophe environnementale où c'était la fin du monde et c'était une sacrée justification. Pourquoi ? Pour restructurer malheureusement des hiérarchies, des petites communautés de personnes qui ne comptaient que sur leur gun et leur famille. Et il y a une série qui est super révélatrice de ce genre de truc qui s'appelle Walking Dead. Vous savez, ces zombies qui ont envahi le monde et ils mangent des êtres humains. Donc déjà les zombies sur le symbole. C'est la plèbe, c'est moche, c'est cradoc, ça mange des gens. Et ce qui est énorme, c'est que en fait, au lieu de créer un système de solidarité, et ben tout au contraire, en fait, le seul truc qui marche pour exploser les zombies, et ben c'est de recréer la hiérarchie avec un chef charismatique, un chef autoritaire, un chef c'est un papa, c'est un chef c'est un homme. Tout ce genre de symbolique hyper états-unienne qui nous est présenté dans cette série où finalement et ben si t'obéis pas au mec et ben tu te fais bouffer par les zombies, en fait tu te fais bouffer par une sorte de plèbe crade et noire. Donc voilà, ça c'est toute la représentation qu'on nous donne depuis 10-15 ans dans des films hollywoodiens pour nous faire peur de ce genre d'événements imprévus et pour nous montrer que la seule chose qui marche dans ces cas-là, c'est pas la solidarité, c'est la hiérarchie, c'est ton gun et ta femme. Voilà. Heureusement, il y a des imaginaires alternatifs qui existent et notamment Alain de Basio qui nous présente des textes et un imaginaire qui est beaucoup plus proche que de ce que nous on peut présenter.
La mémoire de mes joies se conservait en suspens dans les particules de la brume, et la brume, à chaque raid, me rappelait à moi, à ma révolte fondamentale, à ma viscérale liberté. Le dehors, c'était chez moi. Non pas à mon jardin, le jardin, ce carré nostalgique gazonné à la terrienne pour bourge du secteur. Avec ses martiens télétondeurs, c'était précisément la conception de l'espace que je haïssais par-dessus tout. Espace à soi, acheté, volé, qui mimait la liberté sur 10 mètres par 10 en la tuant. La noblesse du dehors venait de sa démesure même. Qui pouvait dire « mon dehors » Personne, sauf à rire. Le dehors ne pouvait appartenir à quiconque, et le gouvernement lui-même n'avait jamais songé à se l'approprier. Trop immense, trop changeant, trop violent, ingérable. Une vraie sauvagerie de rocs, d'éclats d'aérolithes et de cratères brisés à coups de météores, avec des dalles saignées au sable sec, des collines brutes striées au râteau des vents cosmiques, et face au ciel, les crêtes déchiquetées d'ammoniac et de gel. Espace perdu. Le dehors était irrécupérable, à cause des ouragans cosmiques, à cause des pluies de météores incessantes, à cause des vapeurs de Nox, à cause de tout. Les sondes de cartographie que le gouvernement y lançait régulièrement ne revenaient généralement pas, soit que le Nox les bouffât en 3/4, que les trompes de vent les projetassent au sol, soit qu'on ne savait pas trop. Celles qui revenaient donnaient de toute façon des cartes inutilisables. La définition la plus claire que les pouvoirs avaient finalement donnée au dehors tenait en un mot, zone. Et ce mot était le grand sac qui enveloppait tout, qui ne cherchait surtout pas à décomposer cette complexité mouvante de forme et de force qui, au reste, faisait peur. La zone du dehors, c'était simplement ce qui n'était pas Cerclon, un non-Cerclon si l'on voulait, un non-lieu. Un non-lieu pour tous les délinquants, les tueurs et les fous furieux, pour tous les voletés dont j'étais. Ici régnait l'espace, le désert minéral sans bordure, une immensité qui ne prenait humaine dimension que par la trace précaire des pas et le mouvement. Arpenter, vagabonder, bondir, vagabondir pour exister. Chaque fois que j'y retournais, que je m'enfonçais à travers les nappes, quelque chose sortait de la brume pour me dire que c'était là que j'habitais, là que je deviendrais ce que j'étais, que c'était là que mon âme rouge flotterait toujours.
On dit d'un fleuve, emportant tout qu'il est violent,
mais on ne dit jamais rien de la violence, des rives qui l'enserrent.
Ce que nous vivons depuis le 9 mars n'a rien d'un mouvement social. Ce n'est qu'une suite ininterrompue de débordements. Une suite ininterrompue de débordements. Après quoi courent les vieilles formes de la politique. Thank you.